Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Identité et intégration. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces deux mots ne voisinent pas encore au sein du très long intitulé d'un ministère de la République française, d'une manière que d'aucuns jugent d'ailleurs incongrue. Le nouvel ordre mondial de l'immédiate après-guerre semble garantir au régime franquiste une relative longévité. De fait, l'espoir de retour est de plus en plus ténu pour ceux qui avaient rêvé de voir Franco renversé à son tour par les alliés.
République française, ministère des Affaires étrangères, certificat de réfugié.
Intégration et identité pour les républicains espagnols, deux mots d'une langue étrangère qu'il faudra désormais apprendre. Deux éléments enchevêtrés d'un inextricable dilemme, comme une équation cruelle que poserait l'exil. Intégration par dépit ou par défi, identité par défaut, ou au contraire désir de tourner rapidement la page, puisque désormais, c'est en France que la vie continue.
Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides certifie que Madame Plaza Carmen Netoro, demeurant à Saint-Bonnet-Trançais, Allier, née le 14 janvier 1924 à Antequera, Malaga, fille de Juan et de Carme, et réfugiée espagnole, et qui elle est placée sous la protection juridique et administrative de l'Office.
Carmen Plaza, réfugiée en France à l'âge de 15 ans.
Ce certificat est valable du 7 du 12 1962 au 6 du 12 1965, Paris le 7 décembre. Au début, on n'avait pas de carte, on venait nous contrôler, on nous donnait des papiers comme ça. On était non, mais après, on a eu des cartes.
Jusqu'en quelle année tu as eu une carte comme ça?
En 66, on était jusqu'en 65, et ça allait en 65. On s'est naturalisé français.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'ils nous ont obligés. Parce qu'ils disaient, les enfants, ils sont français, pourquoi vous? Les gendarmes venaient souvent nous visiter, nous contrôler. Donc, les enfants, ils sont, on s'est fait naturaliser.
Les enfants ont été naturalisés avant vous?
Ah oui, ils ont été tous les quatre. Toi, tu es né français, mais les autres, ils sont nés espagnols. Ils sont tous leur papier de naturalisation. Hein. Ils sont été tous les quatre en même temps.
Pourquoi est-ce qu'ils ont été naturalisés?
Parce que c'est pareil, ils nous obligeaient, il fallait, pourquoi qu'on ne les naturalise pas, pourquoi ils sont nés là, ils sont...
Et c'était pas une envie?
Non, c'était pas une envie. Non, c'était pas une envie de se faire naturaliser, c'est... Non. C'est venu comme ça, ils nous ont obligés si tu veux, mais on était là pour toujours, la preuve.
Si vous n'étiez pas naturalisé avant, c'est parce que vous aviez l'espoir de retourner en Espagne?
Bon, moi, non. Je sais pas, si on avait pu, on en arrêtait, mais on avait fait, les enfants étaient nés là tous. Non, je crois pas que...
Vous en parliez, entre vous?
Non, on n'en parlait pas. Ben, on avait notre vie là, si tu veux. On était là, ben, tous les enfants sont nés là, ils ont été à l'école là.
À la maison, vous parliez quelle langue?
Dès qu'on a pu parler français, on parlait français. Ton frère et tes sœurs parlaient français, donc ils ont parlé français. Et avec ta grand-mère, ton grand-père, espagnol. Parce qu'ils ne parlaient pas français. Non, tu es espagnol, hein, notre andalou. On a tout le temps parlé français, ma foi, ça continue. Tout en ayant l'accent, hein, parce que là, ça, on ne le perd pas. Hein.
Mais il y avait toujours l'idée de revenir un jour.
Ben, si on n'allait plus, oui. On n'est jamais aussi bien que dans un pays, hein, quand même.
Pour nous, la France était notre pays.
Mariano Constante, né en 1920 dans la province de Huesca, Aragon, ancien sous-officier républicain et ancien déporté.
Oui, d'abord parce que c'était notre pays d'accueil, parce qu'en Espagne, qui allait en Espagne pour être fusillé par Franco? Mais le problème a commencé quand il a commencé, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas espagnols parce que Franco nous a retiré la nationalité. Et ça a été très très difficile. Parce que nous n'étions personne, nous sommes don nadie. Mais c'est personne, voilà exactement.
À Madrid, évidemment, je suis Pedro, puisque je m'appelais Pedro. Après, il m'a demandé de franciser, j'ai mis Pierre.
Pierre Villa, né en 1937 dans la province de Murcia, fils d'un combattant républicain qu'il rejoint en France à l'âge de 10 ans.
Il y avait aussi, pour tous les gens qui prenaient la société française à cette époque, ce désir se fonde de la masse. Donc, gommer l'aspérité. Et d'ailleurs, le document le permettait. Voulez-vous changer de nom de prénom? Franciser votre nom. On s'est regardé avec mon père, pas plus mal. Mais on garde le nom, oui, on garde le nom. Sinon, ça aurait pu être Villa. Hein, Villa. On voulait être français à 110%, il n'y avait pas d'histoire. Et en 4 ans d'école primaire, je n'ai entendu qu'une fois espagnol de merde, ce qui était monnaie courante dans d'autres lieux, dans d'autres villages. Et c'est la seule fois que je donnais un coup de poing.
Les cours d'école, c'est dur. Et moi, j'avais trouvé une parade, évidemment sans réfléchir, maintenant je la réfléchis, mais c'est que moi, j'étais pas espagnol, j'étais catalan.
Libert Tarrago, journaliste, écrivain, éditeur, né en France en 1947, fils de républicain et de déporté.
À Brive-la-Gaillarde, un catalan, pour des gamins à l'école, ça devait ressembler à un lapon, ou je sais pas trop quoi, un mystérieux inconnu, en tout cas exotique. Donc c'était une protection, c'est la protection, je crois, avec le recul, la plus merveilleuse. Donc je me faisais moins traiter de sale espanche que les autres, quoi, que ceux qui ne pouvaient pas dire qu'ils étaient catalans ou basques, je ne sais pas. Moi. Tu vois, c'était curieux. C'est les stratégies les plus insoupçonnées. On comprend bien ces phénomènes-là et les décalages qu'on pouvait vivre. Quand on venait nous d'ici et qu'on allait là-bas. Donc, par exemple, moi je jouais avec les enfants là, devant la place de l'église, on jouait au ballon. Arrivait le curé, moi ça me stupéfiait. Ils partaient tous lui baiser la main. On arrêtait tout. Hein. Et moi je restais comme couillon avec le ballon sur la place cimentée, poussiéreuse, la main dans les cimentées. Et puis je les voyais tous. 20, 18, 20 gamins à tour de rôle lui baisant l'anneau. Venant de France, c'était le choc des cultures. Hein.
Mon oncle était un homme. C'est un libertaire. Hein. C'était un homme qui s'était investi en France. Il n'a jamais voulu retourner en Espagne. Il n'est jamais retourné, même après le franquisme.
Josep Vilamosa, né à Barcelone en 1927, réfugié en France à l'âge de 11 ans.
Il a dit ma deuxième patrie a été la France, c'est la terre d'accueil. Et il nous avait dit à nous, et vous devez le respecter. Respecter le pays qui vous a accueilli. Au départ, les premières années, quand la guerre s'est terminée en France, qu'il y a eu l'armistice, on pensait que le franquisme risquait d'être renversé et de retourner. Mais on s'est aperçu de suite, 4 ou 5 ans après, on a dit, bon, c'est terminé, nous sommes là pour rester tout le temps. Mon oncle, on lui a dit, monsieur Marco, vous pouvez être français dès demain si vous voulez. Il s'était engagé pour la durée de la guerre en France, donc il n'avait pas de problème. Il a dit non, je ne sais pas pourquoi. Je vis en France, mais je reste dans la nationalité espagnole. Et jamais il a voulu se faire français. Et il nous disait à nous, ouais, laissez courir, on verra. Parce qu'à une époque aussi, nous avions envisagé de partir en Amérique du Sud. On voulait partir au Mexique. Après, on voulait pour le Chili, et total, on est parti nulle part. Si, j'ai mon frère qui s'est marié et qui est parti au Brésil. Lui, il est parti au Brésil, il est resté 15 ans au Brésil, mais après, il est retourné, il est revenu en France.
Donc, avec Dalia, on s'était marié en 50, non ?
Armand Villamosa, né à Barcelone en 1925, réfugié en France à l'âge de 13 ans.
Il y a une cinquantaine, on a dit, bon, on ne va pas continuer, on a vu deux guerres. Il y a eu le mur de Berlin, il y a eu la guerre froide. On a compris que pour nous, ce n'était pas une possibilité, que ce n'est pas les Américains, la France et les Anglais qui avaient besoin que Franco continue en Espagne. On a vu de nouveau, il y a une instabilité, on sentait que ça sentait mal. No? On voulait aller au Canada, mais ils demandaient trop de choses. Et on a dit, bon, on va laisser tomber. Mais au Brésil, à Porto Alegre, on avait des amis qui étaient partis de Casaville, espagnol réfugié. On a décidé de partir au Brésil, à Porto Alegre. On avait le voyage payé. Il y avait un organisme des Nations Unies qui c'était IRO, International Refugee Office. On a fait toute la démarche qu'il fallait et on est parti au Brésil. Ma fille Ingrid est née là-bas. Mon fils, il avait 14 ans quand on est revenu en 66. Donc on est resté 15 ans au Brésil. Et puis un jour, surtout Dalia, elle a dit, écoute, il faudrait qu'on revienne, les enfants vont être grands, il faut qu'on revienne en France, no? Tout, pour l'ambiance et tout. Et quand on parlait, nous, d'ici, on disait toujours qu'en France, il y a une école laïque qui permet que tous les enfants aient accès à l'école. Et que c'est par l'école que les enfants s'intègrent surtout. Ma fille, quand elle est venue, elle avait 5 ans, mon fils elle avait 14. Il a commencé au primaire parce qu'il ne connaissait pas le français. Il est allé à Henri IV, à Jean Moulin, à l'UT de l'UT. Il est allé à la faculté de sciences, il a tiré un doctorat en robotique. Et la fille, elle est allée à la faculté de lettres. Mais j'ai toujours dit à mes enfants, pour moi, si vous voulez faire des études, en France, il y a beaucoup de possibilités de faire des études. Ta mère et moi, on était des ouvriers, nos parents étaient des ouvriers. Mais on a cherché à se lever tout le temps par l'esprit, par le comportement. Et ici, il y a des possibilités.
Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé l'école à Manuel en octobre 1947. J'étais arrivé en septembre. Je ne savais pas le mot de français.
Pierre Villa.
Alors, j'ai eu la chance d'être le seul espagnol dans ma classe. Moi, j'étais obligé, condamné à apprendre le français. Et au bout de 3 mois, je parlais français et au bout d'un an, je faisais pas de faute à la dictée. Donc, j'ai vite avancé. Donc, dans l'année de mes 14 ans, j'ai évidemment été major du canton. Mais, le lendemain, il fallait envisager un avenir professionnel. L'avenir a été tout tracé. C'était manœuvre de maçon, quelque chose comme ça. En rentrant dans un centre d'apprentissage. Dans ce centre, il y avait un classement au premier trimestre. Et en fonction du classement, je choisissais le métier, alors. C'est en général, j'étais premier avec 18 de moyenne, le second avait 10, et encore, il était second parce qu'il se mettait derrière moi. Et moi, j'avais des rêves. On m'avait dit que, au lycée de Nîmes, chaque année, au mois de septembre, il y avait un examen de passage pour les gens qui venaient de l'extérieur. Alors, je suis allé au culot, je demandais à voir le proviseur. Le proviseur m'a reçu, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je savais les dates de l'examen d'entrée en seconde. Je dis, oui, bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, je dis, je suis là, mais, vous voyez. Ah, mais alors, c'est puisque ça marche si bien, vous avez un bulletin. Alors, effectivement, j'étais premier partout, tout ce qui était français, tout ça. Bon, ils savaient très bien que le niveau n'était pas le même. Puis, oui, mais avec votre famille, ça faisait une heure qu'on parlait, j'ai dit, mais c'est pas tout, mais je n'ai toujours pas donné la date. Je t'inscris. Alors c'est un pari, il n'y a que moi qui pouvais le perdre, il n'y a rien d'un. Et j'ai gagné le pari, c'est-à-dire qu'après, j'ai passé le premier bac avec mention, le second bac avec mention, donc j'ai eu un bachelier pour tout le monde, et après je me suis inscrit à la fac, et à 25 ans j'étais docteur de chimie organique. Mais tout ça avec des bourses au État français. Ensuite, comme j'étais attiré par les pays du tiers-monde, et qu'on venait de créer une université de statut français à Talanarive, dès que j'ai eu mon doctorat, je suis parti comme assistant là-bas, et puis là-bas, à 31 ans, j'étais professeur d'université, j'avais passé une seconde thèse de sciences physiques, 2 ans avant, et donc j'étais parmi les plus jeunes professeurs d'université de ma génération. Et après, bon, j'ai demandé à rentrer en France, et j'ai pris le premier poste qu'on m'a offert, c'était un poste de professeur à l'université de Amiens, et là j'ai passé mes 30 ans, j'ai fini, on avait une quarantaine de chercheurs sous ma direction. C'est là que j'ai formé 47 docteurs dans mon laboratoire.
Il fallait être devant. fait être le meilleur, donner l'exemple, etc. Donner l'exemple justement parce que le pays nous avait accueillis aussi, il y avait ça.
Liber Tarago.
La France nous a accueillis, donc il faut être à la hauteur de ce qu'on a fait pour nous. Vive la République, vive la France. Alors, il y avait ça, hein. C'était très curieux. À l'école primaire, en CM1, une fois je suis revenu avec mon carnet, couverture bleue, je me rappelle, et j'avais fini sixième. Les pleurs de ma mère disant mais que va, comment ton père va pouvoir vivre ça, mais alors que j'étais toujours au premier ou deuxième et rarement troisième, la sixième c'était la catastrophe nationale. Il fallait que moi je sois la suite de l'intellectuel ouvrier, c'est-à-dire que j'enlève le mot ouvrier et que je sois l'intellectuel. Et donc quand je suis devenu journaliste, pour mon père ça a dû être quelque chose pour moi.
Quand nous avons fait le cinquantenaire du Kandak, en 89, donc en février, il y a des journalistes espagnols qui sont venus.
Joseph Vilamos.
Et il y a une journaliste qui rentre au magasin d'optique, il me dit, en espagnol, « Vous êtes Señor Vilamos, si. Ah, je suis journaliste, je suis de Barcelone, j'écris pour le Periodico. Et je viens vous voir parce qu'il paraît que vous occupez de ce cinquantenaire de Can d'Agde. » Elle m'a fait une interview, comme on parle nous maintenant là. On a parlé un moment, elle m'a fait un article sur le Periodico, je l'ai gardé. Et puis j'ai un cousin à Barcelone qui l'a acheté le journal, et puis il est tombé sur, à la photo avec moi, l'intégration d'un réfugié espagnol. Elle a parlé surtout de l'intégration. Elle voulait faire ressortir qu'il y avait une réussite. Elle a fait, et pour moi, c'était un beau papier. Et moi, l'Espagne, malgré tout, ça me touche. J'ai un sentiment pour l'Espagne. Mais ce n'est pas mon pays. Ce n'est plus mon pays. Moi, je me suis investi totalement en France. Je me suis investi ici. Ce qui, pour moi, comptait, c'était ma réussite professionnelle. C'était quand même, je créais mon affaire d'optique et que j'ai très bien réussi. J'avais un magasin à Agde, un magasin au Cap d'Agde. Et donc, il fallait que j'investisse tout à fait là-dessus.
Moi, en 1963, j'avais décidé d'amener mon père. Je voulais voir ce que ça allait lui faire. J'ai voulu amener mon père en Espagne.
Pilar Amiel, fille de républicain, née en France en 1940.
Donc, on avait fait les papiers et nous voilà partis, là-bas, dans son pays, à Santander. Et voilà, ça s'est bien passé. Il était très heureux. Mais finalement, je comprends, parce qu'il ne le disait pas, mais il était allé voir s'il pourrait revivre là-bas, en fait. C'est ça. Il est allé voir comment ça se passait, voir. Et puis, surtout, la première fois que nous sommes revenus, il a dit non. C'est pas possible, évidemment, si c'était sous Franco. Hein. Il a dit non. Je pourrais pas revivre ici. C'est pas possible. Tout a changé.
Je pense que pour s'intégrer, il faut vouloir s'intégrer. Ça, c'est très important.
Armand Villamosa.
On peut garder ses racines toujours. Et aller en Espagne, c'était un leurre pour moi. Maintenant, c'est ce qu'ils avaient de la famille, qu'ils avaient peut-être un peu de terre, qu'ils avaient une maisonnette, ci et là. Mais même cela, ils ont été déçus. Je veux dire pourquoi. On ne revient pas dans le passé, dans le temps ni dans l'espace. Quand on est revenu du Brésil, en 66, je suis arrêté au port de Barcelona. Il faisait escala, le bateau. Alors j'ai fait avertir par des amis à cet oncle qui avait un bar al Paralelo qu'on allait passer. Mon fill, ma filla, Dalia e moi. E quand elle arriva, je vois un garde civil avec un fusil mitrailleur à la porte du bateau en bas. Je dis, je ne sens pas que je vais foutre ici, sur l'entrée de la guerre permanente ici. Et puis, il y a mon oncle qui boitait, Luis, qui vient. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Il dit, San. On est descendu. Et nous avons monté à Montjuïc, que moi je connaissais très bien Montjuïc, cette montagne fameuse où il avait été. Et subitement, j'ai eu envie presque de pleurer. L'émotionnel m'a gagné, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs. Ma mère, mon père, c'était Barcelone que j'avais quand j'étais gosse, que j'avais parcouru le métro, un peu de temps, le grand métro, la place de Catalunya, la place d'Espagne, le théâtre.
S'enfada, clar, s'enfada.
Alors tout ça, ça m'est revenu, forcément. Mais j'ai pas eu la nostalgie de vouloir revenir a Barcelona. Je me sentais déjà un peu étranger. Mais quand je vais en Espagne, j'aime voir com hi viu, perquè mes racines, mes origines són de là, és evident, no?
rester en France.
Chez moi, il y a le soleil.
Intégration et question d'identité.
Chez toi, c'est vous.
C'est moi, on ne parle.
Avec Carmen Plaza, Mariano Constante, Pierre Villa, Liber Tarrago, Josep Villamosa, Armand Villamosa et Pilar Amiel. Témoignages recueillis par Marianic Bello, Pascal Guérive et Manuel Plaza. Musique originale, Guillaume Séguron. Un documentaire de Manuel Plaza, Divergence FM. Mémoire des républicains espagnols. Témoignages d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, direction de la culture et du patrimoine.